Alors, il est bel et bien le maître des camouflages. Il ne faut jamais oublier ça. J'aurais pu dire à la blague que si moi je me spécialise dans les cassettes, lui spécialise dans les cachettes. Vous savez, je pourrais faire des enseignements, des micro-sillons à longue durée. Ne serait-ce que pour décrire toutes ces façons de procéder, comment il a organisé, par exemple, les communautés religieuses. Vous savez, les communautés religieuses croyaient qu'après s'être consacrées au Seigneur, avec les trois vœux de religion, la chasteté, la pauvreté puis l'obéissance, ça mettait là une triple porte blindée à toute attaque du démon. Ben lui, s'est pas occupé des trois vœux. Passé par en arrière, puis s'est attaqué à la désunité, à la charité, pour laquelle on n'a pas fait de vœux, d'engagement particulier. Il n'est pas arrivé dans les monastères avec des revues pornographiques, avec des catalogues de boissons ou des listes de drogues. On l'a tout de suite reconnu. Il est entré, puis il a mis la désunité. Et quand la désunité est là, ben, ça rouille les trois vœux. Aujourd'hui, on pense l'avoir classé à jamais. Là, on s'est dit, bon, ben maintenant, là, on l'a vu, on le comprend, puis depuis Vatican II, c'est pas de problème. Il rentre dans ce désir d'être présent au monde, de s'incarner. Puis on fait ça dans des bonnes intentions. On veut que les communautés soient plus au milieu du monde pour avoir plus de vocations, pour édifier par l'exemple et puis sauver tout le monde. Je vais d'ailleurs en parler dans la deuxième interpellation aux communautés religieuses. Il rentre à travers ça. Il fait la même chose avec nous, les prêtres, les évêques. Sous le slogan, là, il faut une religion dans le vent, il faut rendre l'évangile accessible, plus populaire. C'est incroyable comment il se paye notre tête dans ça. En tout cas, voilà, pas pour lui donner plus d'honneur qu'il faut, mais ce cher diable, vous le savez comme moi, il est à l'origine de toute une litanie d'expressions. Dans le Petit Robert ou dans Larousse, on parle de l'expression « c'est pas le diable ». Dans le populaire, langage populaire, on dit c'est pas le diable. Ou bien aller au diable, hein, vent du diable, être malin en diable, le travail fait à la diable, s'agiter comme un beau diable, tirer le diable par la queue. Puis toutes les expressions là, diable, à la diable, au diable, en diable, du diable, etc. etc. Bon, voilà. Il existe, puis c'est un ratourage. Maintenant, troisième question. Que fait-il au juste entre les repas? Pas ses repas à lui. Ou plutôt, ses repas à lui quand il nous bouffe. C'est peut-être bon de se demander un peu la mission qu'il poursuit. Bien, pour le comprendre dans sa mission, il faut se rappeler que le péché de Judoka le fourbe, c'est au point de départ un péché d'orgueil. Il a voulu s'affirmer devant Dieu. Il croyait que rentrer et dire oui au plan d'amour de Dieu pour sauver le monde, c'était un assujettissement pour lui, puis lui voulait être libre. Mais il a confondu que être libre, ce n'est pas être indépendant de Dieu. On est dépendant de Dieu. Mais on est libre, c'est deux choses différentes que les gens confondent souvent. Alors, pour comprendre sa mission, il faut partir de son péché originel à lui. Donc, toutes ces fourberies, ces actes, ces stratégies, si on les ausculte bien, si on les examine de près, ont pour but de nous engager chacun de nous, finalement, dans la voie de l'orgueil, de la suffisance de nous-mêmes, de la reprise ou de la prise en main plus grande de notre vie, à tout point de vue, y compris le point de vue spirituel. et a comme voie de conséquence de nous placer dans une plus grande autonomie face à Dieu, une plus grande distance. On veut garder nos distances par voie de conséquence. Donc, sa mission, c'est tout le contraire de ce que l'Évangile nous enseigne, d'être abandonné, de croire, de faire confiance à Dieu, de l'écouter, de le prier. La mission du malin, qu'on le veuille ou non, nous ramène toujours à notre moi et essaie de nous convaincre que notre moi est plus capable qu'on le pense. Notre moi peut s'en sortir. Notre moi est suffisant. Notre moi est indépendant. Alors, je récapitule, là, c'est très, très important parce que ça devient, pour ainsi dire, un outil qui nous permet de diagnostiquer au fur et à mesure s'il est à l'œuvre ou non. Les trois composantes du péché de Satan, c'est l'orgueil. Lequel orgueil gonfle le moi, provoque une plus grande indépendance vis-à-vis Dieu. Laquelle indépendance vis-à-vis Dieu nous amène à nous attaquer, rejeter ou ne pas nous occuper de la réalisation du règne de Dieu, de son plan. Donc, on retrouve toujours ce triptyque ou cette trilogie dans tous les actes du malin. Quand il nous tente, que ce soit en direct, lui-même, ou à travers des tentations ou des démons, c'est toujours pour en arriver en nous, aux trois mêmes composantes, qu'on en vienne à nous suffire, qu'on devienne à nous plus orgueilleux, plus orgueilleuse, et que par voie de conséquence, étant plus suffisant, qu'on se coupe, qu'on prenne nos distances, qu'on se sente plus indépendant vis-à-vis Dieu, et que par voie de conséquence, son œuvre en nous a moins de chances de se réaliser. On imagine bien que quand il s'est agi de tenter Adam et Ève et de tenter le nouvel Adam, Jésus, que Jules Okolfaux lui a mis le paquet parce que c'était très important pour lui. Alors, jetons un coup d'œil sur ces deux scénarios. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Au verset 1 du chapitre 3 de la Genèse, on lit ceci. C'est Satan qui parle. Vraiment, vraiment. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et il y en voilà une demi-vérité ambiguë qui oblige Ève à rectifier. Il lui donne la chance de sauver la face. Ève a dit, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais pas du fruit de tel arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis là, Satan revient à la charge. Pas vrai. Voyons donc. Vous ne mourrez pas. Voyez le menteur. Il sait, lui, qu'il va en mourir, spirituellement parlant. Ben non, vous n'en mourrez pas. Et là, il insinue sa stratégie. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bonheur et du malheur. Demi-vérité. Là, ils gonflent, ils pompent l'air dans leur orgueil. En leur disant, Dieu ne veut pas que vous fassiez ça pour vous garder petit, pas libre, écrasé. Lui pompe de l'air en insinuant, ben, si vous en mangiez, là vous seriez comme un dieu. Donc en jouant sur la déclaration de Dieu, il transforme un avertissement salutaire qu'Adam et Ève avaient reçu, c'était clair, ce qu'il y avait à faire, puis Dieu avait trouvé son amour, une requête divine le transforme en un mensonge de sa part, d'abord, puis provoque l'orgueil, le goût de l'orgueil chez Adam et Ève, et cet orgueil veut les rendre indépendants, et ils tombent dans la désobéissance. Vous voyez sa stratégie? Il veut nous faire faire, en définitive, ce que lui a fait en se mettant les pieds dans les plats pour l'éternité. Deuxième exemple, le nouvel Adam, Jésus. C'est la même stratégie de fond. Qu'est-ce qu'il fait avec Jésus? Puis ça demandait quand même de l'audace. Il lui propose de se suffire à lui-même. Donc, de se couper du Père, puis de l'Esprit, puis tout. Il le met au défi de changer les pierres en pain, d'ambitionner, de dominer sur tous les royaumes, à la condition de s'affranchir de Dieu, d'adorer Satan, donc de vendre son âme au diable. Puis il lui insinue, il lui pompe de l'air. Je ne dis pas dans l'orgueil, Jésus n'en avait pas. Mais il lui pompe de l'air en lui disant, si tu es Dieu, fais-le donc. Monte sur le temple, puis lance-toi. Confiant. Moi, je peux te donner tout cela. Alors, voyez là, faut donc, et j'insiste là-dessus, et parce que c'est pour mieux comprendre ce qui va suivre, il faut toujours s'attendre à retrouver au fond de toutes ces manigances, de ces tentations, de ces fourberies, de ces pièges, de ces ruses, cet orgueil qu'il réveille, attise, embrouille en nous, pour nous amener à une plus grande recherche d'indépendance, pour finalement nous amener à faire échec par voie de conséquence au plan divin de l'amour. L'orgueil, ben, on l'a appris au catéchisme, c'est cette estime déréglée de soi-même qui fait qu'on se préfère aux autres et qu'on veut s'élever au-dessus d'eux. Puis quand on glisse dans ça, ben évidemment, on est tout près de glisser sur la pente de la fierté, de l'arrogance, de l'insolence, de la morgue, de la suffisance, de la présomption, de l'amour-propre, de la gloire humaine, de la vanité, etc., etc., etc. Bon, alors je le dis là, en terminant cette question, le malin, tenons-nous le pour dit, a un plan clair et net. C'est pas un être qui marche au petit hasard, au petit bonheur. Il marche au petit malheur, mais il sait ce qu'il fait. Il a un plan clair. En autant qu'on peut dire que c'est clair quand ça vient du prince des ténèbres, et net, un plan clair et net. En autant qu'on peut dire que ça peut être net quand c'est fait par un sale type. Mais en tout cas, son plan est arrêté et nullement flou. Il est malin dans le sens qu'il voit à son affaire. Il n'est pas fou. Il se cherche la compagnie. Maintenant, et pour toujours, pour l'éternité. Il ne va pas être pris là-bas tout seul avec les anges déchus. Il va augmenter son club. Il est pressé par le temps. Il sait que lui, là, quand la fin des temps va venir, c'est la fin de son acte. C'est la fin de sa pièce. Alors, il hâte le pas. Mais, bien entendu, il faut comprendre qu'il ne nous décrit pas d'avance toutes ses stratégies. Il ne veut pas les divulguer parce qu'on le verrait venir et puis il aurait beaucoup moins d'efficacité. Alors ça, c'est sa mission. Comment s'y prend-il dans le détail? Donc, zoomons davantage, là, ajustons, augmentons là, notre recherche. Au premier stade, d'habitude, il part d'un besoin ou d'un goût qu'on a. Qui peut être bon et légitime, ou mauvais et répréhensible. Bon dans le sens que quelqu'un qui veut rétablir la vérité, il veut aider le prochain, il veut se former spirituellement, donc bonne intention, ou des mauvaises intentions, je veux oublier mon malheur, veux en finir avec ma vie, je veux me venger, je veux tuer. Bon. Alors, il commence à entrer dans notre premier stade, un besoin ou un goût. Deuxième stade, il m'encourage dans mon projet de solution. Et mon projet de solution, ici encore, il peut être bon et légitime, comme je viens de le dire, rétablir le droit, obtenir justice, sauver les âmes, aider mon prochain, ou il peut être mauvais et dommageable, m'enivrer pour oublier, sauver ma peau par un mauvais serment, voler sans que ça paraisse. Alors, jusqu'ici, le malin respecte mon jeu, quel qu'il soit. Il flatte même mon jugement et m'encourage à procéder. Si mon projet est bon, je vais donner des exemples il y a un instant, qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'on commence à le repérer. Sa tactique, ça consiste à me culpabiliser parce que je ne fais pas ce bien-là assez vite, jusqu'au bout, à fond, plus fort, etc. Il dit, tu veux faire connaître la vérité? Ah ouais, lâche pas. C'est là qu'il attise l'élan en moi, comme un judoka, puis dans mon désir, je viens tellement fixer sur l'idée de sauver la vérité, que j'oublie la charité. Que je veux tellement défendre mon droit, que je respecte plus ceux des autres. Il me fait penser tout droit. Donc, sa tactique, quand notre projet est bon, notre solution est bonne, c'est vas-y. Puis là, on s'élance. Puis on perd les nuances, puis on perd les pédales, et puis ça y est. Il nous a eu, avec dommage et intérêt. Si notre solution, au contraire, est mauvaise, est boiteuse, j'ai le goût de voler, j'ai le goût de tuer, j'ai le goût de me suicider, j'ai le goût de m'enivrer, bien, là, il ne me culpabilise pas. C'est l'inverse. Il me déculpabilise pour pas que j'y renonce. Voyons donc, tu as le droit à ça. Tu as travaillé fort. Tu peux te saouler. Allons donc, il ne faut pas être piquant. Tu as l'école pas. C'est pas si mal. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Ben voyons, les gens ne verront pas. Ça va t'épanouir. Ça va te soulager. Alors, troisième stade, ma bonne intention confirmée ou ma mauvaise intention calmée, c'est quand je me mets en route pour réaliser ça, là, il m'a conditionné à aller plus vite, il m'a conditionné à ne pas m'en faire, c'est là que judoka le fourbe donne le coup de grâce, qui nous fait perdre l'équilibre, qui nous fait trébucher, qui place ses mines, ses bombes, ses pièges, qui tourne les flèches de direction puis les poteaux indicateurs de bord pour nous envoyer sur la mauvaise route, qui répand son mélange d'huile puis d'eau sur la chaussée pour qu'on tourne, qui met abondamment son acide borique sur le plancher de danse pour que ça glisse plus, puis ça valse mal. Ou qui nous propose des soi-disant raccourcis qui s'avèrent de plus en plus des détours sans fin vers des tunnels sans issue. Et ces premières étapes en cours, et plusieurs n'ont pas encore perçu le malin, là, il enfonce les trois. Travaille sur sa trilogie, gonfle mon moi, agite mon indépendance et suscite mon oubli de l'amour de Dieu. Face à lui, là, vous savez, il est très subtil. Il commence par alimenter de plus en plus mon moi, sous prétexte de nous donner confiance. Il engraisse notre moi, là, lui fait prendre de l'embonpoint. C'est rien que plus tard qu'on en découvre tous les inconvénients. les essoufflements, l'accablement, le gonflement plus fréquent. Puis on se réveille tout à coup avec un édème inflammatoire du moi. Et on a de la misère à respirer spirituellement. Le moins qu'on peut dire, c'est que c'est un pas gentil. Mais la vérité, c'est qu'il se paie notre fiole. Et je ne serais pas intellectuellement honnête à son égard. Je veux bien l'être. Si je ne disais pas que c'est un grand sournois, un hypocrite, un faux. Sa stratégie profonde consiste non pas à nous prendre de front, à nous confronter ou nous affronter, mais de s'insinuer à l'intérieur de nos besoins, de nos bonnes aspirations, de nos bonnes intentions, de nos bonnes déclarations. On l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il n'est pas arrivé à Adam et Ève pour dire « Révoltez-vous, désobéissez à Dieu ». Il est venu donner une exégèse. Il a joué à l'exégète pour interpréter l'ordre de Dieu. Je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire pour que vous puissiez mieux le saisir. Et quand on voit le diable jouer à l'exégète, je ne suis pas surpris de nos jours de voir des exégètes qui jouent au malin, qui nous interprètent la Bible, pour nous en faire douter, en fin de compte. Ils nous rentrent dans des détails, sous prétexte de nous dire, vous savez, celui qui s'appelle un tel, c'est pas son vrai nom, c'est pas la vraie chose, et puis ils fendent les choux en quatre, et puis ça, puis la conséquence de ça est néfaste. Parce que les gens se disent, on ne peut plus rien croire dans la Bible. Ils se font prendre par ça. L'histoire de la pomme puis de l'arbre, moi, on balance que ce soit des pommes ou des prunes ou des oranges, que ce soit dans un arbre, ou dans une étagère, ça m'est égal. Pas important, ça. Mais combien, là, ont commencé à faire toutes les choses de la Bible en jouant, là, justement, sans s'en rendre compte à l'exégète, malin. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus au désert? Vous comprenez que Jésus avait jeûné, paraît-il, pendant 40 jours. Et là, il y en a qui disent, c'est pas 40 jours. Moi, je m'en balance, que ce soit 38 ou 45. Important. Mais, chose certaine, il a jeûné, puis il avait faim. Alors, c'est une belle tentation de lui proposer de changer les pierres, parce qu'il y en a dans le désert. Quand on va en Terre Sainte, on envoie des pierres dans le désert. Les changer en pain. Jésus vient pour sauver le monde. Donc, naturellement, il aurait eu le goût de dominer. Alors, Satan essaie de le confronter même, parce que les deux premières tentations, Jésus les réfute avec des textes de la Bible, ben, il se ravise tout de suite dans la troisième tentation. Il sert un texte de Bible à Jésus. « Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront là, dans leurs mains pour éviter que ton pied heurte une pierre. Lance-toi donc du haut du temple. » Alors, Judoka entre dans notre dynamique et va même jusqu'à se présenter, c'est saint Paul qui nous dit, se camoufler en ange de lumière. Voilà donc, ça suffit pour le moment, sur ce plan-là. Quelle est sa clientèle préférée maintenant? Ben, sa clientèle privilégiés, c'est des gens comme vous et moi. Et là, on va se donner un petit coup d'encensoir. Les gens intelligents, les gens doués, instruits, érudits, esprits vifs, les gens forts en raisonnement, dévoués, engagés, souvent renouvelés, très actifs, soucieux de progrès spirituel, etc. Pourquoi a-t-il un faible ou une prédilection pour ces gens-là? Ben, pour trois raisons. C'est d'abord parce que ce sont des gens plus facilement enclins à l'orgueil, à la prétention, à la suffisance. Et qui, parce qu'ils sont instruits, parce qu'ils sont érudits, parce qu'ils sont engagés au service du Seigneur, dans les œuvres et dans les mouvements, et tout ça, offrent beaucoup plus de portes d'entrée à Judo Calfour. Deuxième raison pourquoi il les favorise, c'est qu'en les bloquant, en les freinant, en les détournant, il enlève au Seigneur et à l'Église des gens qui, normalement, pourraient être de grands apôtres, de grands témoins, de vrais exemples, de puissants entraîneurs des autres. Puis enfin, troisième raison qui n'est pas à dédaigner, c'est que sa fierté à lui est gratifiée par le fait qu'il a réussi à prendre des gros poissons, des gens, des quelqu'un. Et ça lui fait claquer bretelles, ça le rend fier de réussir ces choses-là. Pourquoi toute personne intelligente, instruite, engagée, renouvelée, sincère, etc., est-elle la plus menacée que d'autres? Bien, je l'explique. C'est que par leur disposition naturelle elle-même, ces gens-là, étant plus doués, tout naturellement, vont jouer plus facilement, et je prends l'expression française, au malin, au fin, au plus fin, au fin-fin. Ils sont plus délurés, sont plus astucieux, sont plus débrouillards. Eh bien, ils se pensent plus capables. Pour ça, l'expression, on dit, c'est un malin, c'est une petite maligne. Et alors, cela les entretient dans un monde à eux où forcément, ils risquent effectivement de se sentir, de se trouver, de se croire doués, très fins, fins, plus que fins. Et ces dispositions naturelles d'intelligence, de vivacité d'esprit, d'érudition, de raisonnement, qui sont bonnes en soi, mais pas toujours en moi, oriente aisément son titulaire aux frontières de deux mondes dangereux. Celui de la satisfaction, de la vanité, de la fatuité, de la suffisance quant à soi, mais celui aussi, quant aux autres, de l'humour méchant, de l'ironie, de la raillerie, du sarcasme et de la méchanceté. Et il est facile d'aller outre frontière dans tous ces domaines et de réveiller ou d'entretenir son bon vieux fond d'orgueil. La deuxième raison pour laquelle ces gens-là sont plus vulnérables à Judoka le fourbe, c'est que plus on est doué, plus on est intelligent, plus on est équipé par soi-même, moins on est enclin à chercher ailleurs et autrement de la lumière et de la force. On se sent capable de fonctionner avec son propre générateur. Alors que les gens qui, au contraire, se sentent vraiment pauvres, démunis, les petits et simples de cœur devant Dieu, eux et elles, voyant et admettant leurs faiblesses et leurs limites, se tournent davantage vers le Seigneur et n'ont pas peur de tendre la main et d'ouvrir le cœur. Et c'est ainsi qu'ils ou elles sont souvent